Nene, ho gran tristezo. Nene, ho gran tristezza, oh yeah. E rose ne ha nado, aio mensa mauruco. Mauruco per tutto la montagna, per tutto la montagna, la ne un eitam blanco e nos auset che manpo.
Bonjour, cette émission elle est faite à Royères de Vassivière, à Radio Vassivière, avec le comité de soutien aux inculpés du 15 juin 2021. Bonjour Daniel, bonjour Marie-Claire.
Bonjour.
Bonjour.
Le 15 juin 2021, en Limousin, à plusieurs endroits, dont très près d'ici à Jansioux-Pigerol, la police antiterroriste et la gendarmerie ont arrêté une dizaine de personnes entre la Creuse et la Haute-Vienne, ont placé 6 personnes en garde à vue et mis en examen 3 personnes, dont toi, Marie-Claire.
Oui, exact.
Ça fait presque un an et demi, on n'en parle pas énormément, ton contrôle judiciaire continue pourtant, ainsi que celui de 2 autres personnes mises en examen. Ce qui est reproché dans ces dossiers-là, c'est des incendies qui ont eu lieu en 2020, début 2020 à Limoges, sur des camionnettes de Enedis, avec des revendications taguées et envoyées à des journaux contre le déploiement des compteurs Linky, et des incendies en janvier 2021, début 2021 en tout cas, près de Limoges, sur des émetteurs de radio, de télé, de téléphone, et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Et donc des faits pour lesquels il y a un gros dossier et des grosses accusations, notamment pour toi, Marie-Claire, d'association de malfaiteurs. Alors, le comité de soutien existe depuis le début, depuis les arrestations, mais les contrôles judiciaires continuent. C'est difficile de soutenir, on ne sait pas trop quoi faire. On s'est dit, on prend la parole sur la radio locale, Radio Vassivière, et je te laisse poursuivre, Daniel.
Oui, bonjour Marie-Claire, merci d'avoir pris le temps de t'entretenir avec nous aujourd'hui pour la radio. Tu habites Jansioux, en Creuse, sur le plateau du Mille Vaches. Tu es à la retraite depuis un an et avant ça, tu as travaillé toute ta vie professionnelle comme institutrice, professeur des écoles, comme on dit aujourd'hui. Et tu t'es de tout temps impliquée dans des activités syndicales, parce que la défense du service public de l'éducation et la profession d'enseignant te tiennent à cœur. Ta sensibilité pour le vivant en général, et pas seulement les affaires humaines, t'a amené naturellement à t'intéresser à des problématiques rangées sous l'étiquette d'écologie. Tu chantes dans des chorales qui donnent de la voix à ces problématiques. Et voilà, 15 mois, le 15 juin 2021, tu as été violemment interpellé chez toi. Et avant d'être mise en cause par la justice, sous le chef d'inculpation d'associations de malfaiteurs. Est-ce que tu peux nous décrire les conditions de ton arrestation ?
Alors, donc le 15 juin 2021 à 6h15 du matin, je dormais encore, je m'apprêtais à me réveiller et aller à l'école. Pour une dernière ligne droite avant ma retraite, donc, hein, puisqu'il c'était 3 semaines avant les congés scolaires et ma retraite, j'ai entendu des cris dehors, chez moi. Donc, je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre, et là, j'ai vu un spectacle absolument ahurissant. C'est-à-dire, c'était le hameau était rempli de gens en uniforme, à surarmés, avec des cagoules. Enfin, un mauvais cauchemar, sauf que non, c'était pas un cauchemar. En fait, c'était bien chez moi que ça se passait, enfin, dans mon village. J'ai eu très peur. J'ai entendu que c'était chez mon voisin que ça hurlait. Et voilà, donc je suis descendue un peu paniquée. Et j'ai dit, ben voilà, c'est chez le voisin. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est horrible. Enfin, j'ai imaginé le pire, évidemment. Je suis sortie et des policiers sont arrivés à ma porte en même temps et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe enfin, qu'est-ce que c'est que ça quoi. Et on m'a attrapée, on m'a rentrée dans la maison, on m'a mis les menottes, on m'a assise sur mon canapé et là je me suis dit ouf, ça n'est pas mon voisin, il n'y a pas eu de malheur en fait. Et je crois que la redescente a été salutaire pour moi parce qu'après je n'ai pas pu retourner en panique et mon cerveau s'est déconnecté, en fait, parce que c'était tellement complètement surréaliste pour moi, cette situation. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il faisait chez moi. Hein. Pourquoi il y avait autant de monde ? Pourquoi moi ? Pourquoi il m'avait mis le menotte ? Voilà. Et on m'a lu un chef d'inculpation avec toutes les accusations, les machins. Je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. Voilà. Donc, moi, ce qui m'importait sur le coup, c'était de me dire, mais attendez... vous faites quoi ? Enfin, pourquoi vous êtes chez moi ? Et on me répondait, oulala, madame, attendez, si on est là, c'est pas pour rien. On sait tout, vous êtes au courant, forcément. Je ne comprenais absolument pas ce qu'on me disait. Et tout à coup, je me suis dit, mais attendez, vous allez faire quoi, là ? Ben, on va perquisitionner, on va vous emmener, etc. Je dis, non, mais moi, il faut que j'aille à l'école, en fait. Et là, ils ont éclaté de rire en disant, mais vous savez, ce qui vous arrive, c'est très grave, l'école, c'est pas grave. Je dis, non, mais moi, je suis directrice d'école, il faut que j'y aille, on m'attend, enfin. Donc, je leur ai demandé d'avertir l'inspection, enfin, voilà. J'étais un petit peu omnubilée par cette histoire de, il fallait que je prévienne, je pouvais pas quitter l'école, je pouvais pas m'absenter comme ça.
C'était un mardi matin.
C'était un mardi matin, je devais,
semaine.
Voilà. Et donc, il y a eu la perquisition de la maison qui a duré des heures et des heures et des heures. Et moi, je suivais. Voilà, il fallait que je suive, que je regarde ce qu'ils faisaient. On me posait des questions. Bon, je répondais pas forcément. Ou alors...
Ils te demandaient de les suivre ?
Ah oui, il fallait que je suive parce que je devais être présente. Je devais être témoin de là où ils fouillaient, ce qu'ils me prenaient, ce qu'ils mettaient dans les scellés. Enfin, tout un protocole complètement dingue qu'on voit dans les films ou qu'on lit dans les livres, quoi. Et là, en regardant, en observant, j'ai vu qu'il y avait l'ASDAT, la sous-direction antiterroriste, le PSIG d'Aubusson, c'est-à-dire la brigade spéciale de gendarmes, voilà. La police judiciaire. Alors, il y avait des gendarmes qui bouchaient les routes, je ne savais pas ça, qui avaient barré les routes d'accès au Mont. Enfin bref, cette opération avait commencé très tôt dans la nuit. Voilà, donc après, on m'a emmené à Limoges. Alors, il y a beaucoup de gens qui étaient rassemblés dans le village et qui étaient apparemment très choqués par ce qui m'arrivait. Donc, ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là et qui étaient choqués. Je me suis dit, bon, ok, il m'emmène à Limoges, très bien, bon, on va suivre, et puis voilà, ça va se régler, enfin, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, en fait ? Eh ben non, ça s'est pas réglé du tout, puisqu'à Limoges, je suis restée 4 jours en garde à vue, donc l'ancien régime de l'antiterrorisme, qui est maintenant passé dans le droit commun, voilà. Et on m'a interrogé longuement. Bon, j'ai eu un avocat qui m'a beaucoup soutenu et qui m'a demandé de garder le silence parce que visiblement je ne comprenais pas ce qu'on me disait, je ne connaissais rien à cette histoire, à ce dossier. Et surtout, voilà, c'est un droit de garder le silence en garde à vue et il faut vraiment le faire, ça je le conseillerais à tout le monde. Parce que, parce qu'on est dans un état psychologique de choc, parce qu'on ne sait pas de quoi on nous parle, parce que l'avocat même ne connaît pas le dossier. Il n'y a en fait que les policiers qui connaissent le dossier en face et qui essayent finalement de piéger les gens jusqu'à ce que, je ne sais pas, ils s'accusent eux-mêmes de choses même qu'ils n'ont pas faites. Ou, enfin, c'est vraiment un travail de psychologie sur les gens pour lesquels on n'est pas à armes égales avec eux déjà. Et puis on est sous état de choc, on n'est pas formé comme eux pour manipuler les gens en face. Donc voilà. Et à la sortie de ma garde à vue, donc on m'a mis en examen et sous contrôle judiciaire pour association de malfaiteurs. C'est-à-dire, association de malfaiteurs, ça veut dire qu'on a des amis qui sont peut-être impliqués dans des actions ou dans des délits, ou enfin bref, ils sont au centre d'une enquête. Voilà. Et si on a des amis qui sont au centre d'une enquête, on peut être accusé d'association de malfaiteurs. En fait, ce mot fait très très peur, mais ça peut arriver à tout le monde.
D'accord. Et du coup, à l'occasion de cette affaire, tu as découvert que tu avais fait l'objet pendant plusieurs mois avant l'arrestation d'une surveillance policière particulière. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors d'abord, dans les interrogatoires, pendant les 4 jours de garde à vue, on commence à comprendre un petit peu pourquoi on est là, hein, quelle est la logique du récit policier qui fait qu'on est venu m'arrêter, etc. Alors, même si ça paraît délirant, il faut essayer de comprendre leur logique à eux, leur récit, leur histoire, ce qu'ils se sont racontés pour aller me chercher moi, voilà. Et ensuite, on s'aperçoit que oui, effectivement, on a été surveillé. Et après, en ayant le dossier, en ayant accès au dossier, puisque en tant que mise en examen, on a accès au dossier de l'instruction, il y a une autre violence énorme, c'est qu'effectivement, on a été suivi, on a été écouté, les courriers ont été éventuellement lus. Les domiciles des amis chez qui on était sous écoute, les voitures, les téléphones, enfin bon. Et tout ça, pour ça, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je me suis aperçue finalement que des policiers de la SDAT étaient déférés à Limoges pour suivre les manifestations, par exemple.
Il faut peut-être rappeler ce que c'est que la SDAT.
Oui, c'est la sous-direction antiterroriste. Donc la sous-direction antiterroriste, on voit tout de suite les crimes horribles, les attentats, etc. Mais il faut quand même savoir qu'il y a à peu près un tiers des effectifs de la SDAT qui est dédié à la surveillance des militants, notamment des militants, ce qu'ils appellent d'ultra-gauche. Parce que, voilà.
Et en même temps, la sous-direction antiterroriste, elle n'est pas censée suivre une manifestation.
Alors, elle ne suit pas une manifestation, elle suit des gens en manifestation pour voir quoi ? L'attitude des gens en manifestation, peut-être les relations avec d'autres personnes, faire des liens, faire du renseignement, en fait. Hein. Et voilà, des manifestations autorisées où moi, je suis allée, j'ai participé, effectivement, pour la défense des retraites, du service public, etc. Bref, où je chante, en général, dans une manifestation, voilà. Et d'ailleurs, la récolte était maigre, parce que on n'a rien su me reprocher lors de ces manifestations.
Et Du coup, après la garde à vue, tu as été libéré, tu as pu retourner chez toi, mais tu étais placé sous contrôle judiciaire. Et est-ce que tu peux nous redire de quelles contraintes il s'est agi pendant, jusque maintenant, puisque tu as fait plusieurs fois appel pour obtenir la levée de ce contrôle judiciaire, mais qu'il est toujours. Tu subis toujours des mesures de contrôle. Et si tu peux nous dire ce que ça implique concrètement dans ta vie, en fait, comment tu vis avec ça, quoi.
Alors, quand je suis sortie de garde à vue, donc j'ai été placée sous contrôle judiciaire extrêmement sévère, c'est-à-dire que je ne pouvais pas sortir du département de la Creuse. Donc, moi, j'habite à la frontière de 3 départements, la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse. Et quand on habite sur le plateau de Millevaches, la vie sociale, économique, relationnelle, etc., se déroule en général sur les 3 départements. D'ailleurs, ma fille et mon petit-fils habitaient à 10 km, mais en Corrèze. Donc, je ne pouvais pas aller voir ma fille, je ne pouvais pas aller garder mon petit-fils, je ne pouvais pas aller au marché à Émoutier. Tout le plateau va au marché à Émoutier, au cinéma à RSC à Émoutier, à la piscine Saint-Clore de Saint-Léo. Bref, c'était assez cauchemardesque. C'est-à-dire que j'avais une vision du territoire avec la Creuse, moi tout au bout, et très près du barbelé qui entourait la Creuse. Et c'était une vision vraiment traumatisante. Je n'avais pas le droit de participer à des manifestations sur la voie publique. Je n'avais pas le droit de voir 5 personnes, dont 2 inculpés et 3 qui ne sont pas inculpés. Mais qui donc avaient le droit d'aller où ils voulaient, mais moi je n'avais plus le droit d'avoir de contact avec ces gens, qui ne sont d'ailleurs pas des parmi mon cercle d'amis, mais voilà, c'était assez difficile, et je devais aussi pointer tous les 15 jours à la gendarmerie de Gentioux. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, ça a duré 6 mois. On a fait plusieurs demandes effectivement avec mon avocat pour lever ce contrôle judiciaire. Ça a été à peu près refusé à chaque fois. En faisant appel, on a obtenu quelques miettes au fur et à mesure. Alors les quelques miettes, c'était d'accord, vous pouvez aller partout, mais pas en Haute-Vienne. Donc là, l'image de mon territoire s'est transformée en un vaste espace avec un trou à la place de la Haute-Vienne, puisque c'était interdit pour moi. Je pouvais quand même participer à un concert de chorale. La juge avait précisé que manifestation publique ne voulait pas dire un concert dans la rue ou sur une place publique, ce qui quand même me permettait de continuer à chanter et à pratiquer une activité culturelle que j'adore. Et c'est tout, le reste n'avait pas bougé. Puis, dernièrement, ça s'est un petit peu, allégé. De nouveau, c'est-à-dire, je peux aller partout en France. Maintenant, je ne peux plus aller à l'étranger. Avant, j'avais seulement la Haute-Vienne d'interdite, mais je pouvais aller à l'étranger. Maintenant, je peux aller partout en France, mais plus à l'étranger. Bon, bref. C'est des écritures, ils ne se rendent pas compte qu'en nous donnant quelque chose, ils nous enlèvent. Mais bon, ça, c'est... Voilà. La justice. Et je dois pointer seulement tous les mois à Gentioux. Ce qui tombe bien parce que y a pas souvent de fonctionnaires à la gendarmerie de Gentioux, et c'est assez difficile pour pouvoir signer le contrôle judiciaire. Voilà.
C'est-à-dire difficile.
C'est-à-dire que apparemment la brigade de Gentioux est en association, enfin je ne sais pas comment, en mutualisé avec Feltin. Peut-être Vallière, enfin, je ne sais pas exactement. Et comme partout dans le service public, il y a un manque d'effectifs. Donc, théoriquement, il y a une permanence de 14 à 18 heures le mardi, mais souvent, ils sont en opération à l'extérieur, etc. Donc, quand moi, j'allais pointer, en fait, il n'y avait personne. Je dois sonner, je me retrouve en communication avec Feltin, qui me dit « Ah non, mais c'est pas possible, ils sont pas là, il faut appeler ». Voilà, il faut prendre rendez-vous avec les gendarmes pour pouvoir faire son contrôle judiciaire, quoi. C'est...
Si cette émission du comité de soutien aux inculpés du 15 juin est reprise ailleurs en France, on précise que là, on est en Creuse, au sud de la Creuse, et que tu habites à Gentioux-Pigerol, et que ce commissariat de Feltin, ou par exemple dont tu parles, il y a 25 km, qu'on est dans un milieu rural, quoi, où ne serait-ce que mettre en place un contrôle judiciaire avec un pointage, ils ont du mal à le mettre en place, en fait, l'État, quoi. Donc t'es allé sonner et à l'interphone on te répond avec quelqu'un qui est à 25 km et que tu dois voir pour signer, enfin, une situation kafkaïenne.
Voilà, et souvent ils sont agacés eux aussi par ça, parce qu'ils doivent mettre en place des allers-retours entre Felletin et Gensioux, donc ça leur fait 50 km aller-retour juste pour venir me faire signer, ou ils doivent trouver les gendarmes qui sont en opération ailleurs, ou je dois rappeler le lendemain, ou quelquefois je mets 3 jours à avoir un rendez-vous pour pouvoir signer. Voilà, donc c'est un peu... En fait, un contrôle judiciaire, théoriquement, ça sert pour les besoins de l'enquête. On nous explique que c'est pour les besoins de l'enquête. Donc, théoriquement, c'est pour éviter la réitération des faits. Bon, association de malfaiteurs, la réitération des faits, je ne vois pas ce que ça peut être, mais bon, peut-être il faut plus que j'ai d'amis, mais je ne sais pas. C'est aussi pour éviter une confrontation, enfin une communication entre les inculpés et ce qu'ils disent eux, c'est-à-dire préparer un récit commun, etc. Donc c'est des obligations et des interdictions qui sont plus ou moins contraignantes pour les personnes. Et il faut savoir que le contrôle judiciaire est appliqué à des gens qui n'ont pas forcément une implication énorme dans certains dossiers, c'est-à-dire on pourrait croire qu'un contrôle judiciaire, c'est parce qu'on a des preuves, on a des éléments vraiment importants pour mettre en examen les gens. Non, en fait, il y a eu un glissement de la justice depuis quelques années. J'imagine qu'avant, pour être mis en examen et sous contrôle judiciaire, il fallait avoir des éléments vraiment... sûr. Enfin, maintenant, c'est des faisceaux d'indices concordants, des soupçons de corrélation, etc. Enfin, c'est très flou.
Des raisons plausibles de supposer que.
Exactement.
Que le code de procédure pénale est plein de ce genre de formules, ouais.
Voilà, c'est-à-dire que là, le conditionnel est vraiment surexploité, quoi. Mais il faut savoir aussi que y a des gens qui sont placés en détention provisoire sans aucune preuve. Je pense que quand on croit encore à la justice et au fonctionnement de la justice dans ce pays, on se dit que les gens qui sont placés en détention provisoire, c'est forcément qu'ils ont été pris en flagrant délit ou qu'il y a des preuves tangibles. Mais non, pas du tout, en fait. Et les contrôles judiciaires, c'est pareil, en fait. Il n'y a pas de preuves. La garde à vue, bon, ça sert à éventuellement recueillir des aveux, faire pression sur les gens, faire craquer les gens. Une perquisition, ça sert à aller chercher chez les gens s'il y a des preuves, des éléments, et puis aussi à faire du renseignement et à glaner des renseignements sur les liens entre les gens, les associations, les militants surtout, etc. Et voilà, donc c'est un peu gratuit, quoi. Le contrôle judiciaire actuellement en France, c'est un truc très courant et très gratuit. Sauf que c'est une atteinte à la liberté des gens, c'est une souffrance psychologique, sans compter que les arrestations, c'est une violence inouïe, quoi.
Et on peut dire que c'est peut-être aussi une forme de punition avant un jugement qui n'interviendra peut-être que dans plusieurs années, quoi.
C'est l'impression qu'on a et c'est le sentiment qu'on finit par avoir en face de cette pratique violente, injuste, arbitraire, etc. On se dit, bon, ok, ils nous détestent parce que quoi ? Parce qu'on essaye de s'opposer à une logique mortifère de ce monde, on essaye de dénoncer des abus sur le vivant, sur les gens, sur le social, etc. Et on n'est pas de leur bord. Ils peuvent pas nous voir, ok. Alors, oui, c'est une sorte de punition sans jugement.
Et en plus de ça, pour te défendre, tu as dû rendre publique une partie de ta vie intime. Et en rendant public le fait que tu avais une relation affective avec une autre personne inculpée dans cette affaire, comment tu as vécu ça ?
Comme une autre violence. Comme une énième violence. Toute cette affaire n'est que violence, finalement, de la part de la police et de la justice. Enfin, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un véritable scandale. Enfin, on n'est plus dans un état de droit. Moi, je ne peux plus croire à la démocratie, je ne peux plus croire à la justice, à la police de ce pays. C'est pas possible. C'est une orchestration d'injustice, de pression sur les gens, d'humiliation, de pouvoir arbitraire. Et puis, il faut bien qu'on sente le poids du pouvoir sur la nuque, là. Il faut qu'on le sente. Ils font tout pour qu'on le sente à chaque instant. Et effectivement, se faire arrêter chez soi, garde à vue, mise en examen, contrôle judiciaire, plus après, qu'est-ce qu'il nous reste pour essayer de se défendre, essayer d'alerter l'opinion publique en disant « Non, mais regardez ce qui se passe, regardez ce qu'on nous fait. » Eh ben, il reste à dévoiler en plus des choses intimes auxquelles ils se sont attaqués, effectivement. Et du coup, voilà, on est obligé d'étaler sa vie. De toute façon, eux, ils sont allés gratter dans notre vie, ils ont fouillé partout. Et là, en plus, on le publie parce que, effectivement, il faut aussi que les gens comprennent ce qui nous est arrivé. C'est difficile de garder dans l'intimité les choses qui ont été violées par la police et la justice. Et de quand même demander aux gens de comprendre qu'on est dans une situation terrible. En fait, on est obligé, à un moment, d'étaler notre vie. Et oui, c'est... je sais même pas comment... Je pense que avec toute la retenue que je peux avoir, parce que je suis, malgré ce qu'on dit, on m'a classé dans les ultras, je sais pas quoi, je suis quand même une personne assez réservée et raisonnable, heureusement, mais c'est une colère qui est en train de monter par rapport à toute cette injustice, toute cette mise en scène, toute cette violence. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça fait 15 mois, mais quand est-ce qu'on me lâche, quoi?
Et donc là, t'as déposé un nouvel appel du contrôle judiciaire, pour l'instant.
Voilà, donc il sera examiné en chambre de l'instruction le 27 octobre. Voilà, parce que j'ai été interrogée par la juge, donc qui m'a interrogée très longuement, ça a duré plus de 2 heures. Et elle m'a interrogée sur tous les points qui me concernent dans le dossier, qui sont assez peu nombreux, finalement, sur un dossier qui fait presque 10 000 pages, je crois. Je crois qu'il y avait 43 points. Enfin, 43 points, c'est-à-dire, c'est une recherche de mots-clés. Hein. Il y a 43 mots ou choses qui font penser que peut-être, j'étais au courant ou je connaissais des gens. Bref. Donc l'interrogatoire sur les points qui me concernaient, pour moi, c'était bien déroulé. Enfin, c'est-à-dire que j'avais pu m'expliquer, j'avais pu renverser tout le récit policier. Parce que, bon, quand on dit « Ah, vous avez parlé du vent au téléphone », c'était dans le mail de revendication. Bon, là, j'ai dit à la juge « Oui, quand même, je pense que beaucoup de gens parlent du vent, en fait, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, d'ailleurs. Enfin, c'est quand même un mot assez courant. » Et tout à l'avenant, enfin, c'est des choses, c'est vraiment le fil est mince pour faire des raccords entre mes propos, mes blagues, etc., et cette affaire. Mais bon, voilà, c'est le récit policier, c'est leur logique, c'est le but, voilà. Donc je suis sortie du bureau de la juge assez confiante en me disant, bon, ça y est, on s'est expliqué, c'est bon, ok, maintenant, voilà. Donc on a fait une demande de levée de contrôle judiciaire derrière cet interrogatoire, qui a été refusée. Et c'est là qu'elle a allégé un petit peu, en m'autorisant la France entière, etc., pointé seulement tous les mois. Donc on fait appel, évidemment qu'on fait appel. Moi, je ne veux pas de miettes, moi. Je veux juste qu'on regarde ce dossier, que la juge ait le temps de lire ce dossier, et qu'elle en conclue ce qu'elle doit en conclure. C'est-à-dire que je n'ai rien à faire là-dedans. Et toute cette... Tout ce cinéma depuis 15 mois, c'est scandaleux.
Espérons qu'on ne fasse pas trop d'émissions. C'est la première émission spéciale du comité de soutien aux inculpés du 15 juin. On aimerait bien qu'il n'y en ait plus jamais d'autres, que ça soit clos, mais on ne prend pas vraiment le chemin, parce que d'ailleurs, il y a deux autres personnes inculpées qui ont des contrôles judiciaires également contre eux, et qu'on pourrait inviter aussi d'ailleurs à Radio Vassivière prochainement. C'est peut-être si vous êtes d'accord, à la fin de cette première émission spéciale du comité de soutien aux inculpés du 15 juin dans le Limousin. On est à Radio Vassivière, sauf si vous avez quelque chose à rajouter.
Moi, je crois que j'ai beaucoup parlé, donc ça suffit. Merci beaucoup.
Alors merci à Radio Vassivière de accueillir le comité, et aux autres radios éventuellement qui la passent qu'il a passé chez vous. À bientôt.
Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne mère, dans 20 ans pour elle je ne serai plus personne. Mère d'à Vauban,
mère d'à Vauban.
Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien, ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant, moi je vois se faner la fleur de l'âge. Mère d'à Vauban,
mère d'à Vauban.
Bagnard, ici les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant pour elle. J'ai manqué la belle mère d'à Vauban. Bagnard, la belle, elle est là-haut dans le ciel gris, elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi, je suis au mitard avec elle tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle. Merde à Vauban,
merde à Vauban.
Bagnard, le temps qui t'en s'allonge dans l'île de Ré, avec ses poules tant te ronge dans l'île de Ré. Où sont ses yeux, où est sa bouche avec le vent? On dirait parfois que je les touche. Merde à Vauban, c'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir, et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant, mais je chanterai d'en dessous mes planches, merde à Vauban.